Maurice Leblanc, Légende, Cadiz, avril 1893. J'aime les légendes. Ce sont les plus belles histoires, les plus troublantes, les plus amusantes, les plus diverses et les plus poétiques. Un bon conte ne me touche pas autant qu'une jolie légende. Le conte est inventé. La légende est vraie, du moins, je la veux toujours croire telle. En un rapide voyage, après un séjour même, peut-on parler d'un peuple, décrire son caractère, ses habitudes, ses mœurs? Non! Rien de burlesque comme l'appréciation d'un circulaire sur les pays qu'il traverse et sur leurs habitants. L'opinion de Baedeker ne devrait-elle pas lui suffire? Seules les légendes nous renseignent. Elles montrent l'âme de la foule. Elles sont cette âme même, dans ces manifestations naïves. Je les aime, surtout fantastiques et fort lointaines, aussi pour ne pas pouvoir les vérifier. Les autres, trop souvent, s'écroulent comme des châteaux en Espagne. N'est-ce pas une légende que la Semaine Sainte à Séville? Oh, la mère des illusions! À des heures d'intervalle, les confréries passent. Quelques figurants travestis en moines, la tenue mauvaise sous leur lustrine où dégouttent les larmes des cierges, précèdent d'une sainte en robe somptueuse ou un Christ en manteau vénitien, porté sur une châsse par une trentaine d'hommes dont on aperçoit à chaque repos les haillons et les visages trempés de sueur. Et nulle pitié, rien de solennel. Des rires, des cris, comme un spectacle, enfin une mascarade. Consolons-nous avec les légendes. Qu'elles nous viennent de la chronique ou de la tradition, elles ne se trompent pas, elles. Elles sont immuables. Ici, j'en ai noté quelques-unes, toutes amoureuses, toutes un peu barbares. Il n'en est pas d'autres sortes. N'est-ce pas d'ailleurs les deux traits essentiels de ce pays? Ces deux traits, l'histoire de Maria Coronel, les réunit au plus haut degré. Son corps est conservé dans l'église de Sainte-Ignace, une de ces innombrables chapelles de Séville, dont aucune n'est indigne de l'intention. Et la légende dit, Don Pedro le cruel aimait Donna Maria. Elle ne l'aimait pas, mais aimait son mari. Jaloux, le roi fit condamner le mari et promis à la grâce du pays prisonnier à Donna Maria si elle consentait à couronner sa flamme. Chose admirable, elle préféra la mort de l'aimer à son propre déshonneur. Et le mari fut exécuté en sa présence. Et le soir, comme Don Pedro voulait forcer sa porte, elle versa sur elle l'huile de sa lampe et y mit le feu, ce qui n'a nullement altéré la beauté de son corps. De quelle émotion respectueuse vous pénètre la vie et la vue de ses dépouilles. Bien triste aussi, mais plus douce, la rêverie que vous offre la fontaine des amours à Coimbre. Au pied des cèdres qui l'abritent, Ignace de Castro attendait le fils du roi. Elle avait une démarche si noble qu'on la surnommait Port de Héron. Or, quand Villefranche ne venait pas, Port de Héron pleurait et écrivait des lettres. Et elle confia ses larmes et sa missive à la sainte source pour qu'elle les portât à son amant au château voisin. Et la source, j'en suis sûr, ne manquait point de les porter. Mais le vieux roi s'inquiétait de cette intrigue. Il fit tuer par de Véron. Et l'une des pierres de la fontaine est couverte de sang. Ce sont là de piètres amours, des amours de petites gens, auprès de celui qu'éprouva le calife Abderrahman pour sa sultane favorite. Tout ce que les Arabes, d'ailleurs, ont laissé ici, monuments et souvenirs, est grandiose et d'immense envergure. Ce pays ne vaut guère que par eux. Supprimez la mosquée de Cordoue et l'Alhambra de Grenade, ce chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre, et l'Espagne n'existe plus. Leurs légendes sont de même taille. Sur un désir de sa maîtresse, le calife bâtit en quelques mois un palais, une ville même, aux environs de Cordoue. Il fit venir les marbres les plus précieux, appela les architectes de Bagdad, les sculpteurs de la Grèce, les chefs orfèvres de Lusitanie, les tisseurs de Lisbonne, et des flottes ramenèrent de Syrie les cèdres et le bois odorant. On employa 10 000 artisans, 2 400 bêtes de somme, 400 chameaux, et le pavillon central était couvert en tuiles cernées d'or et d'argent. Des émeraudes, des perles et des rubis furent incrustés dans les colonnes de jaspe et d'albâtre. Du vif argent remplissait les bassins de porphyre, soutenus par des pieds de cristal. Et au milieu d'une vasque où se jouaient les poissons de toutes les couleurs, se dressait une statue d'or de la favorite. Cette ruineuse folie absorba les trésors et les revenus du califat. On estime les dépenses à 825 millions. 50 ans après, des bandes de barbares ravagèrent les environs de Cordoue, incendièrent les palais, et rien ne resta, pas pierre sur pierre. Aujourd'hui, c'est une lande inculte. À tout moment, le pied s'y heurte à quelques mouvement de terrain formé de cendres, de débris informes recouverts par la poussière et les siècles. La vieille Espagne aussi a ses souvenirs. L'Espagne des premiers temps, catholique. L'Espagne superstitieuse et féroce. Où devait surgir plus tard l'Inquisition. Aux environs de Barcelone s'étalent des montagnes isolées, le mont Serra. C'est un chaos de cônes gigantesques entassés les uns sur les autres, de crêtes découpées en dents de scie, de rocs sévères et nus. Et tout en haut s'élève un monastère dédié à la Vierge du mont Serra. L'image sacrée fut sculptée par saint Luc, apporté en Espagne par Saint-Pierre et retrouvé par l'ermite Jean Garin. Et la légende dit au sujet de cet ermite: Riquilda, fille de Villedo le Velu, comte de Barcelone, devint tout à coup possédée du démon. Une sorcière consultée déclara que Jean Garin, seul, pouvait délivrer la malheureuse. Le comte partit vers la montagne, accompagné de sa fille, la confia au saint homme et eut l'imprudence de s'en aller. Poussé par le diable, l'ermite abusa de la jeune fille. Puis, pour cacher son crime, il lui coupa la tête et l'enterra. Un si grand forfait fut suivi de remords. Atroce. Jean se mit en chemin vers Rome afin de se confesser au pape. La pénitence imposée fut effroyable. Le Saint-Père interdit au coupable de jamais regarder le ciel, en lui enjoignant de s'en retourner à sa montagne, en marchant sur les pieds et sur les mains, comme une bête brute. Il ne se redresserait point, ne mangerait que de l'herbe, et ne prononcerait une parole qu'au jour où Dieu lui-même le préviendrait de son pardon. Et Jean retourna sur ses pieds et sur les mains jusqu'à Montserrat. Ses vêtements tombèrent en lambeaux, son corps devint plus poilu que celui d'une bête fauve, et il vécut de racines et de plantes. Et au bout de quelques années, le vicomte Viendo vint chasser le gibier, le sanglier sur les montagnes. Ces traqueurs rencontrèrent Jean Garin, qu'ils prirent pour un animal sauvage d'étrange espèce. Ils s'en emparèrent. Le comte l'enferma sous l'escalier de son palais, une chaîne au cou. Toute la population s'empressait autour de lui. Mais un jour, sur la demande des convives, on l'amena dans la salle du festin. Et au moment même, un enfant de 5 mois, fils du comte, prononça ces paroles qui stupéfièrent les assistants. « Lève-toi, Jean Garin, Dieu t'a pardonné !» Et la bête se leva et dit son histoire et implora sa grâce. Et à l'exemple de Dieu, le comte pardonna. Il en fut récompensé. Voulant savoir où reposait sa fille, il fit ouvrir la fosse. Et au fond de son tombeau, Riquilda se dressa vivante, ayant seulement autour de cou une trace rose aussi fine qu'un fil de soie.